Touraine n'a pas besoin d'être défendue. En revanche, la fiction est fragile et l'histoire de la fiction est marquée, en effet, par des incessants procès, des reculs. Nous avons l'impression que la fiction règne planétairement. Tout le monde regarde des séries et des blockbusters, etc. Mais je pense que la fiction reste suspecte, reste condamnée, reste à défendre, en effet. Elle est un peu à protéger.
La fiction reste à protéger, nous dit Françoise Lavocat, professeure de littérature comparée. C'était autour de son décès, Faits et fiction. Allez, comme chaque jour, la Grande Table, deuxième partie, toute l'actualité des idées. Au menu aujourd'hui, un exercice de fiction politique et non de politique fiction avec le philosophe Jacques Rancière, professeur émérite à l'Université Paris 8, qui poursuit ses méditations littéraires autour ou après une politique de la littérature, du partage sensible ou encore de la chair des mots. Voici quelques-uns de ses essais. Son nouvel essai, Les bords de la fiction, paru au Seuil, est en quelque sorte le contrepoint de « Au bord du politique », écrit en 90, réédité et augmenté en 2003, réflexion sur les marges et les contours du politique, et le prolongement de « Le fil perdu », son dernier livre paru en 2014, où il explorait les métamorphoses de la fiction littéraire, chahutée de l'intérieur par les bouleversements sociaux, politiques du pays. Dans les bords de la fiction, ce qui était à la marge est devenu le cœur de la fiction. En quoi celle-ci s'en trouve-t-elle différente? Quelle fiction pour quelle réalité? Dans ce nouvel opus, il s'applique à y répondre en analysant chapitre après chapitre, textes et auteurs. Jacques Rancière, bonjour.
Bonjour.
Quelle nouvelle révolution de la fiction constatez-vous? Peut-être peut-on commencer par ça. Elle est triple, cette révolution. C'est une révolution ouverte. La fiction est fluide, elle est partout et nulle part à la fois. On ne sait plus comment la définir. Elle est à la fois aussi horizontale, c'est-à-dire qu'elle propose un autre rapport entre imagination et réel. Et elle est affranchie, nous dites-vous, du réel tel qu'il s'imposait dans la conception de la fiction jusqu'ici, fiction aristotélicienne ou dans la science aussi. Est-ce que ceux-ci sont pour vous les trois termes de cette révolution à laquelle est confrontée la fiction?
Bon, je pense que pour moi, ce qui est important d'abord, c'est peut-être de ne plus penser la fiction justement dans les termes du rapport, la fiction comme ce qui est différencié du réel, quoi. Parce que bon, ce que j'essaye de dire, de rappeler, c'est que fondamentalement, la fiction, c'est ce qui construit toujours un sens de réalité. La fiction, c'est ce qui fait que il y a quelque chose qui se passe là, quelque chose qui se passe ailleurs, et ça a un rapport. Quelque chose qui se passe à un moment, puis à un autre, ça a aussi un rapport. Quelque chose qui, un événement qui est lié à un autre, comme une cause à un effet. Donc fondamentalement, je crois que pour moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement de sortir un petit peu, disons, de ces espèces de questions un petit peu, pour moi, un peu artificielles. Comment est-ce qu'on va vraiment définir la fiction dans sa séparation avec le réel? Et plutôt de penser, disons, le rapport entre différents types de fiction et aussi peut-être différents modèles de la fiction. Bon, et qu'est-ce que c'est effectivement que le modèle aristotélicien? C'est un modèle, en quelque sorte, qui définit comme un réel, un spécifique à la fiction, un réel spécifique à la fiction. La fiction, bon, disons, ça a lieu comme véritablement, justement, il y a une espèce de construction d'un rapport causal entre les événements, ce qui veut dire aussi que la fiction, c'est quand même ce qui concerne des grands événements qui arrivent à des grands personnages. Et voilà, il se passe quelque chose, effectivement, à l'époque moderne, à savoir que tout d'un coup, cette espèce de hiérarchie, de construction d'un certain réel, oui, se trouve effectivement comme ça, comme remis en cause pas sous la forme de manifeste, mais sous la forme véritablement de manière d'écrire, c'est-à-dire que petit à petit, bon, ce qui était marginal, pas important, pas intéressant, voilà, bon, va devenir quelque chose qui est fondamental. Bon, Aristote distinguait fondamentalement deux temps, justement le temps, on peut dire, de le temps causal, disons, de la fiction bien construite, et puis le temps de la chronique, à savoir les choses qui arrivent les unes après les autres. Bon, ce qui veut dire, en gros, malgré tout, que ça correspond à un partage du monde. Il y a des gens qui, en quelque sorte, agissent, qui ont des fins, qui en prennent les moyens, qui savent ce qu'ils font, qui poursuivent des buts, et qui, finalement, entrent dans des relations à partir de là. Et puis, il y a des gens qui vivent un petit peu au jour le jour, quoi. Et voilà, la révolution dans la fiction, vraiment, arrive au moment où, justement, ces gens qui sont censés vivre au jour le jour vont comme définir précisément le mode même d'enchaînement, le mode même de temporalité de la fiction.
C'est-à-dire que après les illustres, on voit les manants apparaître aussi dans la fiction. C'est un peu ce qu'on évoquait avec Pierre Michon dans la première partie de l'émission. Un nouveau peuple va surgir sur la scène fictionnelle. Qu'est-ce que la fiction, qu'est-ce que les écrivains vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont montrer de ce nouveau peuple?
Oui, je dirais pas un nouveau peuple. C'est-à-dire, mais fondamentalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une, on peut dire tout un âge classique de la fiction où le peuple, disons, en gros, bah, c'est les rôles comiques, bon, c'est les valets, c'est tous ces personnages comiques comme ça. Bon, bien sûr, Shakespeare en est le modèle absolu. C'est-à-dire, bon, il y a effectivement les princes, qui poursuivent leurs histoires. Et puis, il y a cette entrecoupée d'histoires avec des valets. Et bon, il y a cette tradition, bon, qui, je peux dire, vraiment parcourt un petit peu tout l'âge classique où il y a deux sortes de gens qui ont deux sortes de discours, vivent dans deux sortes de monde, quoi. Et bon, finalement, on peut dire que le nouveau peuple qui apparaît, bon, essentiellement, on peut dire, dans le courant du 19e siècle, précisément, je dirais, c'est un peuple de gens qui sont des individus, qui sont plus justement définis par le fait que, bah, ils parlent mal, qu'ils disent des choses ridicules, qu'ils ont une espèce de bon sens un peu épais, mais qu'au contraire, ils se mettent à avoir, bah, des aspirations, comme ça, qui sont justement les mêmes que celles des gens, bah, de l'autre côté.
C'est pour ça que vous parlez de révolution démocratique de la fiction, hein. La révolution démocratique. La pratique de la fiction n'est pas le surgissement des masses sur la scène de l'histoire. Elle n'en est pas moins fidèle à la définition moderne de la révolution. Celle-ci est le processus par lequel ceux qui n'étaient rien deviennent tout. Mais devenir tout, ce n'est pas devenir le personnage principal de l'histoire, c'est devenir le tissu même au sein duquel les événements tiennent les uns aux autres.
Oui, bon, c'est ce que j'illustrais un petit peu tout à l'heure en parlant de cette journée de Madame Bovary, qui est quand même peut-être vraiment un espèce de moment, on peut dire, de révolution fictionnelle, parce que bon, bah voilà, une femme comme ça qui s'ennuie et qui s'ennuie quelque part en province, qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement? En quoi ça peut définir un sujet de fiction? Puis, tout d'un coup, ça va définir comme une espèce d'attention à ce qui se passe à chaque moment, un événement qui, des événements qui sont comme ça, comme microscopiques. Voilà, il y a du givre sur les carreaux. Il y a des gens qui passent derrière ses fenêtres, il y a des bruits, il y a tout ça, toute une série comme ça de petits événements, bon, qui vont devenir justement, on peut dire, le temps même de la fiction. C'est-à-dire que bon, en l'occurrence, c'est le temps de Madame Bovary, parce que bon, que finalement, on peut pas raconter grand chose d'autre de sa journée, quoi. Et puis, petit à petit, ça va devenir le temps aussi des gens bien, quoi. Bon, ça va devenir le temps des héroïnes de Virginia Woolf, qui, elles, appartiennent à des classes élevées de la société, ou en tout cas des classes aisées, quoi. Et c'est ça qui me paraît important. C'est-à-dire que c'est pas simplement que, bah voilà, tout d'un coup, il y a les gens du peuple qui apparaissent sur la scène de la fiction. Ils ont toujours apparu. Mais il y a un moment où, finalement, on peut dire que leur temps, véritablement, devient le temps même de la fiction.
Il y a un moment, je voudrais revenir là-dessus, parce que ça me semble très important, historiquement, peut-être, oui, de ressaisir ce moment, qui doit être un moment très particulier dans l'histoire, qui peut sans doute se déployer sur d'autres domaines, le moment où, précisément, ces petits temps deviennent des temps centraux pour la fiction. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce moment, et peut-être nous donner quelques exemples de ce démarrage, de ce début?
Oui, alors bon, bien sûr, je ne parle que de, disons, un petit peu de la fiction dans l'espace occidental, c'est-à-dire, bon, je n'ai pas, disons, les moyens de parler de la fiction, je m'installe au sein d'une espèce de tradition, quoi. Et oui, bon, il y a un moment où il se passe quelque chose qui est justement que, voilà, il y a une espèce de partage des vies. On peut dire, en gros, c'est malgré tout le moment d'après la Révolution française, d'après les grandes révolutions du 19e siècle. C'est-à-dire que, bon, il y a le moment où, au fond, la société doit plus ou moins comme se redéfinir après la grande déchirure. Et voilà, il y a toute une série d'effets, bon, qui arrivent justement sur des périodes très très longues. C'est-à-dire que, bon, il y a les grands événements, comme ça, les grandes ruptures, révolutionnaire, et puis il y a des petites révolutions qui sont apparemment d'abord non vues. Ça prend du temps, on envoie des traces comme ça quelquefois très très loin, quoi. Et voilà, bon, par exemple, si vous voulez, bon, moi j'ai quand même beaucoup travaillé sur la période 1830-1848, sur l'histoire ouvrière à ce moment-là, quoi. Bon, il y a la révolution de 1830, ces trois journées, bon, on les connaît tous par le tableau de Delacroix, et puis il y a ce qui se passe après, quoi, à savoir qu'il y a comme ça des jeunes ouvriers qui commencent à se dire, mais pourquoi finalement est-ce que on devrait tous les jours simplement être défini par ce qu'on fait? On va à l'usine, on rentre, on se repose, on repart le lendemain, éventuellement on se marie, on a des enfants, et puis qui seront même ouvriers. Et puis non, pourquoi finalement, bah, y a des poètes, nous aussi on les lit, nous aussi ce qu'ils disent nous concerne. Moi j'étais un peu parti dans mon livre La Nuit des Prolétaires d'une conversation comme ça, correspondance entre deux ouvriers, quoi, où il y en a un qui explique à l'autre pourquoi ce que dit Victor Hugo, bon, ça les concerne. Bon, Victor Hugo, c'est le poète un peu, on peut dire, installé déjà à l'époque, apparemment. Bon, bon, il parle à des gens de son milieu, et puis non, tout d'un coup, il dit, mais c'est nous qui sentons véritablement ce qu'il dit. Lorsqu'il parle du temps perdu, c'est nous qui savons ce que ça veut dire.
Alors, je voudrais vous demander quand même à propos des dates. Est-ce que chez Cervantes, dans Don Quichotte ou dans Rabelais, il n'y a pas déjà ça? Vous nous dites non, parce qu'on comprend bien ce dont vous parlez.
Dire bon, je pense que il y a effectivement le fait, si vous voulez, que bon, le genre romanesque a toujours été un genre qui a vécu un peu bon en marge des grandes hiérarchies, si vous voulez. Bon, il y a dans tout l'âge classique et disons défini par une espèce de grande hiérarchie, il y a les genres qui sont vraiment des genres artistiques, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on parle disons effectivement de l'art d'écrire, bah, on parle de la tragédie, on parle de l'épopée, on parle des grands genres, mais le roman, on n'en parle pas,
est-ce que ça commence pas avec le roman, tout simplement, ce que vous nous dites. Est-ce que c'est pas intrinsèquement lié à la notion de roman?
C'est lié à la fois, on peut dire, c'est lié intrinsèquement, si on veut, au fait que le roman n'a pas de genre défini. Donc le roman, effectivement, ça peut se passer un peu, disons, entre n'importe qui. En même temps, dans toute la grande tradition romanesque, malgré tout, il y a une espèce de grand partage, malgré tout, entre, disons, les actions spectaculaires, un peu héroïques ou les gens importants, et puis un peu les manants qu'on rencontre. Souvent, les fictions, c'est les voyages, quoi. Alors, effectivement, il y a des personnages un petit peu amusants qu'on rencontre à droite, à gauche. Et voilà. Et puis, bon, si on pense quand même à Cervantes, qu'est-ce qui est important dans Cervantes, c'est quand même, précisément, on commence à se moquer, bah, disons, de ces grands exploits des grands chevaliers. Donc, bon, il y a cet aspect-là qui est important. Bon, disons, Rabelais se sert en quelque sorte de la fiction aussi pour intervenir, on peut dire, dans le monde, qu'on peut dire, bon, idéologique, si on veut, quoi. C'est-à-dire, bon. Mais donc il y a le genre en général, mais malgré tout il y a un moment où disons ce genre lui-même se met à basculer, quoi, se met à parler de choses bon, qui n'avaient pas lieu d'être. Bon, là, malgré tout, même s'il y avait des gens du peuple dans la fiction, bon, la fiction c'était quand même des grands événements, même si les événements sont des événements un peu ridicules, comme ce qui arrive à Don Quichotte. Mais disons, on voit jamais Don Quichotte, si vous voulez, bon, en train comme ça de regarder par la fenêtre.
Madame Bovary, oui.
Oui, c'est ça. Bon, il y a ce moment tout d'un coup où on peut penser aussi déjà, effectivement, à Balzac, Eugénie Grandet, tout d'un coup, on se met justement à s'arrêter sur le fait que, voilà, finalement, c'est ces gens qui sont pratiquement rien, qui vivent dans une espèce d'univers apparemment clos, bon, en même temps, ils portent comme tout un monde entre eux, tout un monde en eux, quoi. Et finalement, il y a comme une espèce d'ouverture, bon, infinie, quoi, qui s'ouvre à ce moment-là.
Et c'est ce point de bascule, Jacques Rancière, qui vous intéresse. Je le disais, vous repartez de textes d'auteurs, Stendhal, Balzac, Hugo, Proust, Rilke, Poe, Flaubert, Conrad, Virginia Woolf et même Faulkner. Pourquoi tous ces auteurs et pas ceux d'aujourd'hui? Est-ce que les héritiers de cette révolution ne vous intéressent pas? Est-ce que la littérature, la fiction, ne produit plus de révolution aussi importante aujourd'hui pour vous?
Bon, je pense qu'il y a effectivement, il y a ce qu'on peut appeler un grand moment de la fiction littéraire, bon, qui va effectivement définir vraiment tout un changement dans les manières, pas seulement d'écrire, mais les manières de percevoir, les manières de raconter le temps, de raconter les vies. Bon, il y a quelque chose qui, on peut dire, s'est passé massivement entre les années, on peut dire 1850 et les années 1950, parce que bon, malgré tout, bon, disons, le dernier chapitre est consacré donc à João Guimarães Rosa, bon, qui lui est mort dans les années 60, donc je ne vis pas simplement dans le 19e siècle et disons dans les maîtres français du 19e siècle. Oui, je pense qu'il y a véritablement une série de choses qui se sont jouées. Je pense que si vous voulez, bon, on parle toujours un petit peu de la littérature, des arts, comme des choses qui sont éternelles. Mais, bon, évidemment, il y a toujours des gens qui écrivent, des gens qui peignent, etc. Mais en même temps, il y a des moments où on peut dire où, justement, bon, la peinture, la musique, la littérature, la danse, c'est pas simplement un art, c'est quelque chose comme une espèce de véritablement de perception nouvelle du monde qui s'installe, qui fait effet justement en dehors des frontières même de l'art. Donc je pense effectivement qu'il y a eu ce grand moment de la littérature. Après quoi, on continue à écrire. On écrit quand même essentiellement à partir, disons, effectivement, de toutes les révolutions qui ont eu lieu dans l'art d'écrire. Bon, mais je dirais que bon, on vient de couronner avec le prix Goncourt un écrivain d'aujourd'hui, Éric Vuillard, bon, qui est, dont on voit bien qu'il est aussi quand même bon un peu un héritier de ce qui se passe à l'époque de Michelet, à savoir que justement il y a comme une espèce de rythme différent de la phrase qui se lie au fait justement que il y a des gens qui étaient pas grand chose qui arrivent comme ça au premier plan de l'histoire.
Justement sur le lien entre histoire et littérature, Éric Vuillard, prix Goncourt depuis lundi pour l'ordre du jour chez Actes Sud, un récit roman dans les coulisses de l'Anschluss.
Il y a une phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup qui est « L'histoire devrait passer aux aveux ». Ce passer aux aveux est sans doute lié, je pense, aux rapports de force ou d'asymétrie qui sont fondamentaux dans l'histoire. Et sûrement que les livres ont un rapport avec ça. Donc, je crois qu'aussi la littérature s'adosse depuis ce que j'appelle la littérature, c'est-à-dire une chose apparue finalement au XVIIIe. Avant, on avait des gens de lettres, c'était une activité d'un autre ordre. Une littérature, c'est quelque chose qui est adressé et qui a des lecteurs. C'est la naissance du grand nombre. Et je crois que ce projet s'adosse à un projet qui vise à nous dessaler d'un certain nombre de fables. Alors elles peuvent être très différentes, mais pour prendre un exemple, le Rouge et le Noir, d'une certaine manière, nous enseigne que lorsqu'on est fils de charpentier ou menuisier, il n'est pas très facile de franchir les échelons de la société, que parfois ça termine très mal. Les Misérables de Victor Hugo aussi nous racontent à partir d'ailleurs d'un fait divers, donc d'une chose qui a à voir avec l'histoire au sens propre, d'un fait divers qui s'est vraiment produit, c'est-à-dire qu'un homme ayant volé un pain est parti au bagne, pour traverser la société qui est la sienne, il va falloir faire, disons, des efforts que les autres n'ont pas à faire. Et on pourrait multiplier les exemples jusqu'au fait que sans doute Joyce, qu'on lit surtout comme une œuvre formelle, est avant tout une œuvre qui nous dit que nous sommes au temps dorénavant, ou n'importe quelle date, puisque c'est un jour choisi au hasard en quelque sorte, et n'importe quel homme vaut la peine d'être raconté.
Nous dessaler, dit Éric Vuillard, Jacques Rancière, que peut-on connaître, apprendre de la fiction aujourd'hui pour vous ?
Bon, ce qu'on peut connaître effectivement, je dirais de la fiction, c'est peut-être que derrière les mots, si vous voulez, bon, qui sont les mots des politiques, qui sont les mots de la science sociale, qui sont les mots des journalistes aussi, disons-le, nous propose comme des espèces de grandes synthèses malgré tout fictionnelles du monde tel qu'il existe. Bon, malgré tout, parce que bon, la fiction, elle règne partout. Ça ne veut pas dire qu'on est partout dans le mensonge, mais que de toute façon, ce qui nous construit notre réel, ce sont aussi des systèmes fictionnels. Bon, alors je pense que la fiction, en quelque sorte, avouée, la fiction littéraire ou bien par exemple la fiction cinématographique, peut-être nous rappelle justement quelque chose comme une sorte de réel, d'expérience sensible qui constamment, je peux dire, s'efface dans ces grands discours-là, s'efface dans les grands modèles stratégiques. Bon, on peut penser déjà à ce que disait Tolstoï. Bon, c'est quand même au centre de guerre épée. Bon, il parle justement du rôle de la littérature. Bon, l'histoire normalement, elle se raconte avec les récits des généraux. Les généraux savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils ont disposé leurs troupes. C'est parfait. Et dit-il, on raconte toujours l'histoire comme ça. Mais non. Et maintenant, il faut la raconter du point de vue de ceux qui étaient sur le terrain, du point de vue de tous les hasards du terrain. Et pour ça, il y a justement quelque chose qui existe, qui est la littérature. Et la littérature, justement, que souvent on représente comme le monde de la fiction, de l'imaginaire en face du monde des réalités. Non, au fond, à partir de ce moment-là, ça devient un petit peu le contraire. Ça devient un peu comme le réel du monde sensible à partir duquel se créent les grandes synthèses de la politique, la stratégie, la science sociale et ainsi de suite.
Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas justement une prégnance de ce monde sensible, y compris par exemple dans la presse, dans l'information, où on va voir les gens, on va aller sur le terrain supposément, essayer de savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est pas du tout la même chose selon vous? Parce que ça s'intègre aussi dans une fiction non assumée.
Il faut bien voir une chose. En gros, malgré tout, nos modes d'explication du monde, ceux qui sont partie des modes d'explication du monde utilisés par les gens qui sont du côté de l'information, qui sont du côté de la science sociale, ont été essentiellement forgés par la littérature. C'est-à-dire qu'on a repris un certain nombre de modes de narration, dont effectivement le mode de narration qui consiste à aller un petit peu sur le terrain, saisir quelque chose, deux trois choses au vol, et puis écrire autrement. essayer de rendre la tonalité sensible de ce qui se passe. Bon, cela dit, malgré tout, il y a une espèce d'encadrement, bon, extraordinairement fort. C'est-à-dire qu'en gros, on sait à peu près, bon, si vous regardez les actualités à la télé, si vous regardez quand on va voir sur le terrain, on sait à peu près toujours ce que les gens vont dire. Parce qu'il n'y a pas le temps, La littérature prend son temps. L'information n'a pas le temps. Donc effectivement, bon, il faut en 30 secondes qu'on ait le concentré. En 30 secondes, ce qu'on dit, bah, c'est des stéréotypes, y compris les gens qui vivent l'expérience réelle. En 30 secondes, ils ont le temps de dire des stéréotypes et seulement, quoi. Voilà, il faut prendre son temps, c'est ça le problème.
Midi 13h18, sur France Culture, oui, avec le philosophe Jacques Rancière, à l'occasion de la parution de son nouvel essai « Les bords de la fiction au seuil ».
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et c'est une des particularités de la fiction pour vous aujourd'hui, Jacques Rancière. Elle crée du commun, elle crée un partage. Et vous dites même que la vérité de la fiction n'est pas dans ce qu'elle croit voir. Contrairement à Stendhal, Proust fait l'apprentissage de la méconnaissance par le sensible. Je vous cite, le siècle de la science est passé par là. Il a appris qu'il n'y avait pas d'âme sincère pour la simple raison qu'il n'y a pas d'âme qui sache le vrai sur elle-même. La fiction moderne sort du souci de vraisemblance et porte un nouveau réel. Et ça, c'est intéressant, Jacques Rancière. Quelle différence, quelle distinction faites-vous entre l'invention et l'imagination?
Oui, alors là, c'est disons une distinction que j'ai reprise surtout de Conrad. Bon, Conrad a cette phrase. Enfin, bon, je la cite évidemment seulement en substance extraordinaire sur Maupassant. Il dit, bon, cet écrivain a la véritable imagination. Il ne consent jamais à inventer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où, justement, l'histoire d'inventer des caractères vraisemblables, des situations vraisemblables, des enchaînements tels que ça ressemble un peu à ce qu'on peut déjà prévoir, imaginer, tout d'un coup, c'est mis hors jeu, quoi. Qu'est-ce que c'est, à ce moment-là, imaginer, si je reprends un petit peu l'exemple de Conrad, c'est qu'il y a quelqu'un qui passe, et on pense que ce quelqu'un qui passe, justement, il a une histoire portée en lui. Donc voilà, bon, il y a cette célèbre préface de Conrad, à Lord Jim. Donc, Conrad dit, c'est pas du tout un être d'invention, il sort pas d'une espèce de brume nordique. Je l'ai vu passer tout d'un coup dans un port d'Orient, à un certain moment, voilà. Et je l'ai vu passer comme quelqu'un dont j'avais à parler. Au fond, ce qui est dans cette révolution, qui met l'imagination à la place de la fiction, c'est comme une espèce d'inversion, quoi. Il s'agit pas d'inventer des gens, des situations, des enchaînements de telle sorte que ça ait l'air réel. Il s'agit en quelque sorte de partir d'une figure réelle, d'une anecdote. Bon, on parlait tout à l'heure du fait divers. Comme de développer toute la puissance d'histoire qui est dans cette figure, dans cette silhouette qui apparaît. Mais l'idée que, d'une certaine façon, le tout, au fond, d'un monde peut être présent sur un visage, sur une démarche, dans une anecdote.
Vous dites l'écrivain, le créateur, va développer des virtualités d'histoire qui se déploient dans un noyau de réel. Voit là le décentrement, Jacques Rancière. Il est là le mouvement principal de cette révolution dont vous faites le constat dans ce livre, celui de la fiction moderne, de quoi vers quoi son centre de gravité s'est-il réellement déplacé dans cette révolution?
Bah, il s'est il s'est déplacé effectivement de l'univers de la ressemblance. Il s'est déplacé par rapport à l'idée qu'il faut que ça semble être réel, quoi. Ce qui est important de la fiction moderne, c'est que justement l'espèce de séparation entre les lois de la fiction et puis les lois de la réalité normale, ça s'évanouit. Bon, on parlait tout à l'heure du rapport qu'il peut y avoir justement entre l'historien, bon, Michelet en l'occurrence, et puis l'écrivain, ça peut être Victor Hugo, ça peut être Éric Vuillard. Bah, tout d'un coup, bon, d'une certaine façon, ils écrivent de la même façon. Et ce qui est important, effectivement, c'est de saisir quelque chose comme une modalité d'existence sensible qui est comme irréfutable. Bon, Conrad dit que ce qui caractérise véritablement la preuve, en quelque sorte, la preuve de la nécessité, justement, c'est c'est l'inévitabilité, quoi. Habituellement, bon, on cherche un système de raison pour dire ça arrive comme ça, c'est nécessaire, c'est forcé. Et puis non, qu'est-ce que dit Conrad, c'est bah, le réel, c'est précisément ce qui ne peut pas ne pas être, ce qui ne peut pas ne pas être là, ce qui s'impose, ce qui n'y a même pas à discuter, ce qui n'y a même pas à réfuter.
Alors, il y a un monde donc au-delà de la rationalité, je voudrais de la causalité, sortir de ce temps tel qu'il est figuré classiquement. Justement, je voudrais vous interroger sur une phrase que vous dites dans l'un de vos textes, le dernier notamment, le temps éclaté de l'écriture retarde, oui. Le temps linéaire de l'histoire. Vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, bon, alors ça, je le dis à propos de, disons, cette fiction de Faulkner, qui est le bruit et la fureur. Le bruit et la fureur, donc, est construit, disons, en quatre parties, quatre temporalités, quatre moments, et avec, donc, un narrateur objectif, et puis trois personnages, dont l'idiot, la Benji, et puis l'homme raisonnable, qui est son frère, Jason, bon, peut-être spéculateur, bon, assez médiocre, quoi, par ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est, on pense toujours, cette espèce d'éclatement des temps, c'est une histoire sophistique, c'est la littérature élitiste, et je pense que non, pas du tout. Bon, ce qui est important, au fond, l'enjeu du roman, c'est quoi? Bon, il y a l'idiot. Bah, l'idiot, il est encombrant, quoi. Il est encombrant, et Jason voudrait bien pouvoir l'envoyer à l'asile, quoi. Et puis, justement, à la fin du roman, il sera pas à l'asile. Alors, il y a l'histoire elle-même, et il y a la structure même. C'est-à-dire, ce qui me semble important, c'est la façon dont, la littérature moderne crée un temps qui est comme un peu justement une espèce d'opposition radicale à ce temps dominant, bon, qui est le temps de l'économie. Bah, il faut déblayer, il faut envoyer ailleurs les gens qui sont pas capables, les gens qui sont attardés. On vit dans ce monde là la littérature, là, justement, on peut dire, retarde indéfiniment ce temps. Alors, bien sûr, la littérature fait pas la révolution, mais en même temps, je dirais, à sa manière elle bloque en quelque sorte ce temps que Walter Benjamin appelait le temps des vainqueurs, quoi, le temps de ceux qui pensent qu'ils ont l'histoire avec eux. Bon, hier c'était la révolution qu'ils avaient avec eux. Aujourd'hui c'est le développement du marché mondial. Et ainsi de suite.
On en parlait tout à l'heure encore. En retardant le temps, Jacques Rancière, elle crée aussi un nouvel espace commun.
Oui, ben je pense, oui, c'est-à-dire que bon, il y a au fond, il y a pour moi ce qui me paraît important, si vous voulez, un espace commun. On met des phrases ensemble, on met des mots ensemble, on met des images ensemble, on met ensemble des mots et des images. On crée quelque chose comme déjà une forme de communauté. Une forme de communauté, c'est pas le fait qu'il y a des gens qui se réunissent comme ça et puis s'embrassent. Non, une forme de communauté, ça veut dire que il y a des choses qui font monde ensemble, qui font sens ensemble. Et bon, la littérature crée effectivement, on peut dire, un monde commun. On en parlait tout à l'heure, à propos de Pierre Michon, et puis disons de sa tablée qui est comme la suite de la scène, quoi. Je parlerai pas de la dimension religieuse qu'il y mettait, mais ce qui m'intéresse, c'est au fond cette manière dont la littérature moderne est une littérature de la coexistence. Bon, j'en parle notamment dans le chapitre qui est consacré à Sebald, quoi. Justement, bon, il dit, voilà, au fond, cet écrivain-là crée un monde dans lequel, finalement, on ne demande à personne s'il a le droit d'être là. Et bon, on voit bien qu'on est quand même dans un monde où constamment, ou bien on demande aux gens pourquoi, disons, si on a le droit d'être là, ou bien on leur dit poliment qu'il ferait mieux d'être ailleurs. Et voilà, je crois que par rapport à ça, la littérature crée cette espèce de monde commun où même ceux dont on n'a rien à faire, ne peuvent vraiment rien faire, ils sont quand même là. Alors bon, je parlais ça notamment par rapport à la politique. On peut dire que la politique crée un petit peu un monde où ceux qui ne sont pas reconnus comme des êtres parlants, malgré tout, parlent, quoi. Bon, la littérature, en l'occurrence Faulkner, lui fait parler quelqu'un qui parle pas du tout, qui est un muet, qui est un idiot, quoi. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de rapport entre trois choses. Je dirais, le monde commun dominant, qui est le monde commun, où il faut aller vite, il faut se débarrasser des gens qui vous font traîner, quoi. Le monde politique, où il y a des gens qu'on met dehors, qui s'imposent malgré tout, qui disent, mais on est là. Et puis le monde de la littérature, où même ceux qui peuvent pas dire, mais on est là quand même, ils y sont quand même, quoi.
Oui, sur Faulkner, ce qui nous rapproche, effectivement, de Pierre Michon, et de ses vies minuscules, vous dites qu'en identifiant la voix du muet, celle de l'idiot, à celle de l'écriture muette, le roman de Faulkner exerce sa justice propre, et que surtout cette parole de l'idiot, la parole de sa douleur, c'est aussi une parole des sans-voix, la parole d'une justice plus profonde et plus distante. Pour terminer peut-être sur cette idée du lien, la fiction pour créer du lien, retracer du lien sur le lieu même, écrivez-vous des destructions humaines, ce qui est intéressant. Est-ce que c'est ce qui expliquerait pour vous aujourd'hui que la fiction est partout et et que notamment la politique ou le politique soit aussi intéressé à récupérer ce genre fictionnel dans son storytelling, dans le fait que la fiction devient un mode de récit ouvert à tous aujourd'hui, Jacques Rancière.
Oui, non, mais là, je crois qu'il faut quand même distinguer précisément. Je dirais qu'il y a une fiction officielle, il y a des modes de fiction dominants, des modes de fiction officiels. Et puis, bon, il y a effectivement des efforts pour faire de la fiction autre chose. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'aime pas beaucoup toujours cette espèce de discours un peu officiel qui disent les gens sont séparés, isolés, malheureux, faut faire du lien. Tout le monde veut faire du lien, les politiques veulent faire du lien. Il y a des artistes qui, à l'époque, aussi voulaient faire du lien, voulaient que l'art recrée du lien. Mais du lien, il y en a partout, quoi. Du lien, il y en a tout le temps. C'est ça pour moi qui est important. La question, c'est quelle sorte de lien.
Vous parliez des trois mondes, fiction, politique, réel. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas trois temps, finalement, qui fonctionnent ensemble dans l'univers que vous nous décrivez et qu'on peut être dans un et dans l'autre et qu'il faut que personne ne l'emporte forcément.
Il y a plusieurs. Disons effectivement,
c'est une question pour un philosophe aussi.
Oui, non, c'est-à-dire que justement, il y a toujours plusieurs temporalités qu'on peut construire à partir de n'importe quel moment. Et on peut dire il y a une fiction officielle qui est, il y a un seul temps et ce temps, disons, il porte nécessairement telle ou telle conséquence. Vous n'allez pas pouvoir continuer à faire tourner une usine à perte. Vous n'allez pas pouvoir continuer à vous embarrasser d'un tas de gens qui vous coûtent de l'argent. Bon, voilà, il faut aller de l'avant, quoi. Et puis bon, mais il y a d'autres temporalités qui se construisent, parce que là encore, la question, malgré tout, le temps, c'est à la fois quelque chose, pour dire qu'on éprouve, mais c'est aussi une construction fictionnelle, quoi. La question de savoir quel temps on construit.
Voilà. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, Jacques Rancière. Les bords de la fiction, votre nouvel essai vient de paraître au Seuil dans la collection La Librairie du 21e siècle. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe de La Grande Table, à la programmation, préparation. Aujourd'hui, Clémence Marie avec Henri Leblanc, Claire Maillot avec Chloé Leblon et l'aide précieuse de Bertie Bourdon et Maxime Morin. Chaque jour, quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez nous écrire, mais aussi vous abonner au podcast de l'émission. À la réalisation aujourd'hui, Liscombe avec YouTube Diego Hack Lopez. Demain, nous recevrons dans la première partie de l'émission, ce sera encore une grande table littéraire puisque c'est la semaine des prix, Olivier Cadio et Claude Ardo qui seront avec nous donc dès midi. D'ici là, très bel après-midi à tous. Yes.